Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. On s'intéresse aujourd'hui aux vices de la charcuterie industrielle. Nous verrons pourquoi elle nous empoisonne à petit feu, pourquoi les industriels qui fabriquent du jambon et des saucisses snack utilisent abondamment les nitrates de potassium et nitrites de sodium dans leurs produits. La charcuterie bio est-elle épargnée par ces poisons? Quels sont les liens entre ces charcuteries pas du tout artisanales et la progression du cancer colorectal? Et puis quelles sont les vraies alternatives pour manger de la charcuterie sans danger? Notre invité, le journaliste Guillaume Coudray, qui a publié l'enquête Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison. Mon complice aujourd'hui, le journaliste du 1, Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes directrice d'une agence de communication. Vous aimez la charcuterie et c'est un amour lié à l'enfance.
Oui, je mange la charcuterie depuis que je suis enfant. D'ailleurs, à l'heure du goûter enfant, je préférais manger un bout de saucisse avec du pain plutôt que un pain au chocolat comme tous mes camarades.
Ah ouais, vous préfériez le boudin noir et la saucisse, ouais, plutôt que du pain et un morceau de chocolat.
Absolument. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et en devenant adulte, j'ai évidemment affiné mes goûts.
Alors vous aimez tellement la charcuterie, Christelle, que vous avez organisé et que vous organisez toujours avec vos amis des soirées cochonnes. Si je
oui,
puis dire.
Alors on essaie de se réunir une fois par mois, on fait des soirées cochonnes, donc ce sont des gens qui, des amis, des connaissances, on essaie d'élargir le cercle. L'idée c'est de manger de la bonne charcuterie, et non pas de la charcuterie industrielle, de s'échanger des adresses et de passer un bon moment ensemble, voilà, tout simplement.
Pourquoi pas la charcuterie industrielle?
Alors, elle n'est pas bonne, tout simplement. C'est une question de goût, c'est même pas une question avant tout de santé, c'est juste que c'est pas bon. C'est que quand on a commencé à manger une charcuterie artisanale, faite avec les bons temps de salaison, de macération, les bons produits, on ne peut plus manger de charcuterie industrielle, c'est impossible.
Alors vous qui êtes amatrice de charcuterie, est-ce que vous considérez que les consommateurs, que le grand public est informé des dangers de la charcuterie industrielle?
Probablement pas. Quand on lit toute la littérature autour de la façon dont est fabriquée la charcuterie industrielle, le grand public n'est probablement pas informé. Mais il n'est pas informé non plus et pas éduqué sur le goût, parce qu'il y a une vraie différence entre une charcuterie industrielle et une charcuterie artisanale.
Bonjour Guillaume Coudray.
Bonjour.
Auteur d'une formidable enquête publiée à La Découverte, Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison. Alors dans votre ouvrage, vous ne fustigez pas la charcuterie en général, vous portez le fer contre ces cochonneries que l'industrie nous font avaler sans que l'on soit bien informé.
Oui, alors en fait, il faut préciser, c'est pas simplement l'industrie, c'est un problème qui aujourd'hui est endémique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile, sauf pour effectivement des consommateurs très éclairés votre auditrice, c'est très difficile de trouver des charcuteries qui ne sont pas traitées au nitrate ou au nitrite, pour plusieurs raisons, pour accélérer la fabrication, pour rosir les produits, pour simplifier, pour allonger les dates limites de consommation. Ces additifs sont un peu pour les industriels, et y compris pour certains fabricants qui n'ont pas vraiment appris les bonnes techniques ou qui sont un peu réticents à essayer de vendre des produits qui ont leur vraie couleur. Eh bien, ces additifs sont un peu des produits miracles de leur point de vue, parce qu'ils permettent d'utiliser toutes sortes de viandes, d'arrondir les angles, on va dire, sur les temps, comme le disait très bien votre auditrice, d'arrondir les angles sur les temps de salaison, sur les temps de maturation, d'accélérer considérablement les temps de production. Et donc, hélas, ça n'est pas... Il ne s'agit pas simplement de dire ce sont les charcuteries, quelques mauvaises charcuteries identifiées comme industrielles qui sont mauvaises. Aujourd'hui, le problème du nitrite et du nitrate est endémique. Il a contaminé toutes les charcuteries.
Et on reviendra largement sur les problèmes posés par le nitrate de potassium et le nitrite de sodium. Alors, est-ce qu'on peut dire que la charcuterie industrielle qui utilise ces additifs, que cette industrie est au cœur d'un scandale sanitaire?
Ah, pour moi, c'est absolument un scandale sanitaire. Et quand je vois les réactions, donc d'une part, au cache investigation...
Vous aviez réalisé...
Alors, c'est pas moi qui l'avais réalisé, hein, c'était Sandrine Rigaud, on avait travaillé ensemble sur cette enquête, c'était voilà un travail d'équipe, c'était Élise Lucet qui le présentait, c'était un formidable travail d'enquête validé comme ça dans tous les sens. Quand on porte, si vous voulez, ce type de scandale, quand on essaye de faire surgir ce type de problématique à la surface, qui l'était déjà il y a très longtemps, et puis qui réengloutit par la communication, par le marketing très offensif, d'un énorme lobby des charcuteries nitritées, eh bien, il vaut mieux pas être tout seul, si vous voulez. Si c'était moi tout seul qui venais dire, voilà, il y a ce problème, eh bien, il faut s'entourer aussi d'autres professionnels, et c'était l'idée du cache investigation. Donc, l'idée...
Qui a donné naissance à ce livre.
Alors, c'est une enquête qui a commencé bien en amont. Hein, d'accord. Moi, c'est quelque chose sur lequel c'est une problématique que j'ai découverte il y a 15 ans, pour tout dire, sur les questions de santé. C'était sur d'autres problèmes épidémiologiques. Et c'est vraiment quelque chose, je ne travaille que là-dessus depuis mi-2010. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, on va dire, j'ai commencé de façon très naïve. Et puis, j'ai compris qu'il y avait il y avait des gens qui mentaient. Surtout un lobby américain qui mentait, qui trichait, qui faisait croire au public que les vraies raisons pourquoi on utilisait ces produits cancérogènes, nitrate de potassium, nitrite de sodium, c'était pour protéger le public.
On verra ça tout à l'heure. Christelle, est-ce que vous qui êtes une grande amatrice de charcuterie, est-ce que vous vous investissez, entre guillemets, de façon politique contre ces charcuteries nitritées ?
Non, il n'y a pas d'action. Ma seule action, c'est en tant que consommatrice. C'est-à-dire que j'achète de la charcuterie artisanale, uniquement artisanale. Je défends le droit au bon gras, le droit aux bonnes choses. Voilà, c'est surtout de ce point de vue-là.
Merci.
Dans mon acte de consommation.
Merci beaucoup Christelle de nous avoir appelé. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter de l'émission. Alors vous êtes rendu chez un charcutier artisanal à Paris.
Oui, c'est Gilles Véro, un artisan qui vraiment travaille et avec des produits de qualité. Il est très exigeant dans son travail, dans sa cuisine, et vous l'entendrez comment il travaille.
Et on écoutera tout à l'heure votre reportage. Guillaume Coudray, si tous les consommateurs comme Christelle se mettaient à consommer de la vraie charcuterie artisanale sans nitrate ni nitrite, les industriels devraient se faire un peu de mouron, non ?
Absolument, mais il faut effectivement éclairer les consommateurs parce que les charcutiers qui font ces charcuteries sans nitrate, sans nitrite, ils sont minoritaires. Il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut aller vers leurs produits, c'est eux qui font les choses bien. Il faut aussi que, vous savez, aujourd'hui, il y a une marque fabuleuse, c'est qui le patron ? Bon, un projet merveilleux de Nicolas Chaban, je crois, et Laurent Pasquier, ils sont en train de concevoir du jambon. Ils sont en train d'inventer ces produits. Les consommateurs sont en train de les concevoir. Mais il faut absolument que le jambon qui va sortir de tout ce processus collaboratif, il soit un jambon sain. Pourquoi manger aujourd'hui des charcuteries cancérogènes alors qu'on peut en faire des belles, des saines, des merveilleusement bonnes, qui sont bonnes pour tout le monde, y compris pour nos intestins.
Dans quelques minutes, nous verrons pourquoi et comment la charcuterie industrielle nous empoisonne, quels sont les liens entre la consommation de jambon et saucisses qui contiennent des additifs dangereux et la survenue de cancer. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide d'Antoine Vandeville et avec notre journaliste Théo Denmat, et c'est réalisé par Eric Lenné.
Immortel assassin, te voilà seul. sortie des flots. Je ne pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. J'ai oublié ton nom et ton corps sur la plage. Lâcher la main sur le Porto Vecchio. J'ai souri au venin qui me brûlait le dos. Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Oublier ton corps pour mieux tourner la page. Je reviendrai demain sur le Porto Vecchio. Pour oublier ta main et le goût de ta peau. J'ai la main sur le Porto Vecchio. J'ai souri au venin qui me brûlait le dos. Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Oublier ton corps pour mieux tourner la page.
Doré interprété Porto Vecchio.
Vous aimez les rognons ?
J'aime beaucoup la charcuterie.
Grand bien vous fasse.
Ça va pas être gras, ça ?
C'est les rognons de porc ?
Oui, il dit que c'est très fin.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse à cette charcuterie industrielle qui nous empoisonne. Le regretté Jean-Pierre Coff avait hélas raison. Guillaume Coudray, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une enquête édifiante, Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison. Alors j'aimerais que l'on rappelle une date importante pour la santé publique. Le 12 octobre 2015, le Centre international du cancer, qui dépend de l'OMS, classe les charcuteries en catégorie 1, c'est-à-dire cancérogène pour l'homme.
Cancérogène certain. C'est ça le si vous voulez, il y a cancérogène probable, il y a cancérogène certain. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand cette agence, qui n'est pas un petit labo, d'accord, le CIRC, C-I-R-C, c'est une tour à Lyon, c'est une création, 1964, du général de Gaulle. Une création pour le bien de l'humanité, pour trouver, identifier et parler au public sur... trouver les causes, les racines du cancer. Alors ça veut pas dire que les charcuteries sont aussi cancérogènes que le tabac. Hein, ça veut pas dire que et pourtant c'est en même temps dans la même classe. C'est dans la classe 1. Ça veut pas dire que les charcuteries sont autant un risque que par exemple quelqu'un qui travaille dans l'amiante. Et pourtant c'est dans la même classe. Pourquoi ? C'est parce que Le CIRC, ce CIRC, considère que d'après 30 ans d'études épidémiologiques, c'est pas une nouvelle connaissance, hein, c'est 22, les 22 meilleurs spécialistes mondiaux se réunissent, condensent 800 études convergentes qui prouvent que sans l'ombre d'un doute, on peut dire maintenant au niveau mondial que les charcuteries sont cancérogènes. Et ça, c'est très important, parce que en termes de prévention du cancer, on ne peut pas s'occuper que du tabac ou que de l'amiante.
Alors, manger 50 grammes de charcuterie par jour augmente de 18% le risque de cancer colorectal, autrement appelé cancer de l'intestin. Le cancer colorectal, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier en Europe. Alors, le CIRC recommande quoi ? De consommer, je crois, 25 grammes de charcuterie maximum par jour. Alors, un problème.
Le CIRC ne fait pas de recommandations. Le CIRC établit un niveau de risque. C'est les agences sanitaires nationales qui après font des recommandations. Et donc quelques mois après les conclusions du CIRC, l'agence française, l'ANSES, a dit pour les adultes en France, il ne faut pas dépasser 25 grammes de charcuterie par jour. Il faut rappeler que 25 grammes, c'est juste un peu plus qu'une demi-tranche de jambon de Paris, d'accord ? Et c'est très important de comprendre que certaines d'autres agences, par exemple le WCRF, un grand institut, qui avant même l'IARC, avant même le CIRC, qui s'appelle l'IARC en anglais, lui recommandait il y a quelques années de ne pas consommer du tout de charcuterie. Donc il faut comprendre que l'ANSES, comme ça, prend une sorte de mesure de précaution qui est, pour les adultes, pas plus de 25 grammes par jour.
Et il ne faut pas oublier les charcuteries cachées, le salami dans les pizzas industrielles, les lardons dans les quiches et les morceaux de jambon dans les salades en boîte.
Complètement. Y compris, et c'est là où moi je trouve qu'il y a vraiment un scandale à l'intérieur du scandale, quand je vais dans un magasin de surgelés, par exemple, et que je trouve dans une quantité invraisemblable de surgelés, des charcuteries au nitrite. Mais qui... Pour qui est-ce important quand on mange, par exemple, des trucs qu'on mange quand on est ado ou quand on est enfant, on adore les crêpes au jambon, on adore les pizzas, on adore les quiches, on adore tous ces trucs-là. Mais pour qu'est-ce qu'on s'en moque que le morceau de lardon, on le voit même pas, il va directement il est à l'intérieur de la crêpe au jambon. Qu'est-ce qu'on s'en moque qu'il soit rose? Alors pourquoi transformer de la viande en produit cancérogène, excessivement cancérogène? Si vous laissez ça le problème. C'est que le CIRC a classé la viande rouge en catégorie 2, c'est-à-dire de peut-être cancérogène. Mais le problème, c'est que quand on met du nitrite dedans, ça active le fer et ça active le pouvoir cancérogène du fer.
Alors Guillaume Coudray, l'enquête très sérieuse du Centre international du cancer, n'était pas la première à nous alerter sur les risques de cancer colorectal liés à la consommation de charcuterie.
Ah, comme vous dites, c'est pas la première, on va dire plutôt que c'est le verdict final. C'est le CIRC, c'est un peu l'instance suprême. C'est un peu comme si l'ONU faisait une sorte de commission générale des meilleurs chercheurs et disait voilà, maintenant, on ne va plus tergiverser, on ne va plus essayer de cacher la vérité. Il faut que les agences sanitaires nationales de tous les pays agissent et prennent les précautions. Donc, comme vous dites, c'est loin d'être la première enquête, c'est la conclusion finale d'un verdict de 30 ans, d'accumulation. Et encore une fois, ces connaissances, elles étaient déjà connues. Alors, elles apparaissent déjà dans les années 70, pendant 10 ans. C'est ce que je raconte dans le livre, c'est le cœur de l'enquête. C'est que pendant 10 ans, aux États-Unis, les agences sanitaires, la FDA et l'USDA, c'est-à-dire le département, le ministère de l'Agriculture, essayent à tout prix d'interdire ces produits.
Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur ces deux additifs qui rendent dangereuses les charcuteries industrielles. Le nitrite de sodium, autrement appelé par son doux nom E250, et le nitrate de potassium, E252, le nitrate de potassium également appelé salpêtre. À quoi servent ces deux additifs?
Alors, ils servent, et c'est ça le problème, ils servent pour les industriels et pour les fabricants. Donc, encore une fois, c'est pas que les industriels, c'est aussi des gens qui... Vous savez, hier soir, on a fait le lancement du livre avec un charcutier parisien, Benjamin Darnaud, qui est remarquable parce que... Alors, d'une part, parce qu'il connaît très bien les charcuteries, les bonnes charcuteries, qu'il explique aussi la cohérence avec des bons animaux, font des bonnes charcuteries aussi quand on a les bonnes pratiques. On fait... Benjamin racontait que quand il a commencé à faire des charcuteries, il a ouvert les livres de charcuterie et il a été choqué par le fait que tout de suite, on, avant même de parler de la viande, on parle des additifs. Alors, pourquoi ?
À quoi ils servent ?
Parce qu'ils, pour les industriels, effectivement, ce sont des additifs miracles. Ils servent à d'abord, leur première fonction, c'est d'accélérer la fabrication des charcuteries. Quand on fait un jambon sec ou cru, comme on le fait le jambon de Parme, par exemple. Le jambon de Parme, il n'y a jamais ni de nitrate ni de nitrite. Le jambon de Saint-Daniel, pareil, ni de nitrate ni de nitrite. Et bien, dans ces jambons-là, le pigment naturel de la charcuterie, il va apparaître par un long processus de maturation. Il faut 9 mois à peu près pour qu'il commence à apparaître. Et alors, les industriels américains se sont aperçus qu'il y avait une technologie bien plus rapide qui permettait d'obtenir un résultat qui visuellement ressemble beaucoup, qui fait illusion, on va dire. C'est un simili-jambon, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et avec un bénéfice extraordinaire, c'est que ce jambon-là, on le fait en 3 mois. En 3 mois. Ben, comparez 3 mois de maturation par rapport à 6 mois. Et ben, imaginez si vous trouvez une technique pour construire une maison en 3 mois plutôt qu'en 9 mois. Pardon, j'ai dit 6 mois, mais c'est 9 mois l'autre. En 3 mois plutôt qu'en 9 mois, eh bien, c'est extraordinairement plus avantageux.
Mais Guillaume Coudray, les consommateurs préfèrent de belles tranches de jambon rose plutôt que des tranches aux couleurs un peu grisâtres ou marronnasses.
Mais vous savez, moi, quand j'étais enfant, on aimait bien certains produits qui étaient colorés, et puis tout d'un coup ils ont changé de couleur parce que l'instance sanitaire a dit non mais attendez, tel colorant est dangereux, on l'interdit. Vous dites ils préfèrent, mais ils préfèrent parce que on est...
Je me mets dans la tête des industriels là.
Oui, mais moi, ce qui est complètement abracadabrant, c'est que quand on va au supermarché et qu'on trouve, je vous ai apporté ici 2 exemples de rôti de porc. Alors un rôti de porc nitrité, donc que j'ai acheté hier au supermarché. Rôti de porc nitrité, il est tout rose. Rôti de porc non nitrité, il est tout gris. Bon, il a le même prix, il a la même durée, il a la même stabilité dans le frigidaire. La réalité, c'est que le gris est bon. Alors, vous dites, on trompe le consommateur. Si moi je fais un rôti de porc, ou si vous faites un rôti de porc ce soir à la maison, vous savez très bien, il va être gris. Alors pourquoi essayer comme ça de le tromper visuellement quand il est en train de faire ses courses en vitesse et de lui donner un produit qui paraît plus frais? C'est abracadabrant.
Guillaume Coudray, au milieu des années 1950, que découvrent 2 chercheurs anglais?
Alors Maggie, c'est des chercheurs anglais effectivement qui, en faisant des études sur des solvants en fait, s'aperçoivent que il y a une nouvelle substance qu'on connaissait un petit peu avant, mais on n'en connaissait pas les fonctions. Ils s'aperçoivent que les nitrosamines sont cancérogènes. Les nitrosamines, c'est quand un élément nitré, donc qui vient soit du nitrate, soit du nitrite, par un long par une transformation de l'azote, qui donne ces agents qui sont des nitrosamines. Et ils s'aperçoivent que c'est cancérogène. Donc ça, c'est 1954 à peu près. 10 ans plus tard, on commence à avoir des gros doutes, parce qu'on se dit, aïe aïe aïe, on voit en fait que ces nitrosamines, elles peuvent apparaître lorsque il y a justement dans certains aliments. Et puis on s'aperçoit surtout qu'ils sont cancérogènes. Et ça, on s'en aperçoit sur des études en Suède, donc ce sont d'autres chercheurs. Et c'est à la fin des années 60, dans la deuxième partie des années 60, qu'on vraiment il y a un signal d'alarme qui est ouï ouï ouï. Finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que on utilise ces produits, ils ont été autorisés pour les mettre dans la charcuterie, et on découvre maintenant quelque chose auquel personne jamais n'avait songé, c'est qu'en plus de ce qu'on appelle la toxicité directe, le nitrite fait apparaître des substances qui sont cancérogènes. Et là, ça a été un véritable drame.
En 1968, un éditorial du journal de médecine The Lancet, prestigieux, fait date un article intitulé « Les nitrates, les nitrosamines et le cancer », déjà exactement. En 1968.
Oui, et c'est une date que j'aime bien rappeler parce que c'est mai 68, c'est facile à se souvenir. Donc c'est un éditorial qui justement explique ce grave problème qui est en train de survenir. C'est comme si un rideau tombait. C'est comme, ils s'aperçoivent, et c'est ça que dit le presque de verbatim le Lancet, c'est de dire... c'est très compliqué, on est dans une situation qui est vraiment problématique, c'est que ces produits ont été autorisés pour des fonctions comme ça de coloration, d'accélération de la fabrication,
de conservation,
d'allongement de la durée de vie du produit, et on s'aperçoit maintenant quelque chose qui n'avait jamais été analysé, on s'aperçoit maintenant qu'ils sont en fait cancérogènes. Et alors qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'ils sont partout?
Bonjour David Bazergues.
Oui, bonjour.
Vous êtes le délégué général de la FICT, la Fédération des industriels de la charcuterie, traiteurs et transformateurs de viande. Alors, quand on lit l'enquête passionnante de Guillaume Coudray, on se pose une question simple. Pourquoi les industriels de la charcuterie nous empoisonnent-ils à petit feu en utilisant 2 additifs, le nitrite de sodium et le nitrate de potassium?
Alors, merci pour votre invitation. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, nous sommes extrêmement choqués par le titre de l'ouvrage et son résumé, qui sont profondément racoleurs. Aucun charcutier français ne se retrouve dans ces calomnies. D'ailleurs,
les charcutiers, peut-être pas, mais David Bazergues, les industriels de la charcuterie, sans doute, les charcutiers artisanaux, sans doute pas.
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous avons un code des usages qui est commun entre les artisans et les industriels. C'est-à-dire que les règles qui portent sur les 450 dénominations françaises de charcuterie sont les mêmes. Donc l'autorisation des nitrites est la même en ce qui concerne les produits artisanaux et les produits industriels. Vous savez que quand on parle d'industrie de la charcuterie en France, on n'est pas aux États-Unis, on a environ 200 PME régionales qui sont en général des entreprises de moins de 50 salariés. On est bien loin des modèles qui sont repris dans le livre et qui portent sur l'industrie de la viande aux États-Unis.
Alors David Bazergues, nous citions tout à l'heure l'enquête très sérieuse du Centre international du cancer qui recommandait, qui classait les charcuteries industrielles en catégorie 1, cancérogène pour l'homme, cancérogène notamment à cause de deux additifs, on les a cités tout à l'heure. Pourquoi ces additifs cancérogènes se retrouvent encore dans la charcuterie que l'on retrouve dans les supermarchés, dans les hypermarchés?
Alors déjà, cette étude du CIRC, elle consiste à dire que on peut tout à fait continuer à consommer des charcuteries, et les nitrites effectivement sont utilisés dans certaines charcuteries qui le nécessitent pour des raisons de sécurité alimentaire. Et d'ailleurs, l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, l'EFSA, a publié un rapport en mai dernier, donc c'est tout récent, pour indiquer que le nitrite utilisé dans les conditions très faibles actuelles ne présente aucun danger pour la santé des consommateurs.
Guillaume Coudray, aimerais vous répondre.
Moi, oui, ce que je voudrais... bonjour, monsieur Bazergues.
Bonjour.
Je voudrais, en fait, vous poser, par exemple, une question sur... vous parlez du code des usages. J'ai devant moi deux paudriettes que j'ai achetées hier dans un supermarché du 6e arrondissement à Paris. Alors, je voudrais comprendre, en fait, pourquoi, sur des rillettes petit prix, rillettes du Mans pur porc, je ne vais pas dire, c'est une marque de distributeur, pourquoi je vois dans les nitrites de sodium, et pourquoi sur des rillettes Bordeaux Chenel à côté, je ne vois pas de nitrite de sodium. Est-ce que vous pouvez, et que je sais très bien que le code des usages, votre premier code des usages en 1964 disait qu'il n'y avait pas besoin de mettre du nitrite de sodium dans les rillettes. Or, maintenant, vous en autorisez dans des rillettes de premier prix. Pourquoi dans des rillettes petit prix du nitrite de sodium? Pourquoi dans des rillettes gamme moyenne, Bordeaux Chenel, il n'y en a pas?
Alors, je vais vous répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet des nitrites, il se justifie au niveau de la sécurité sanitaire d'une part. Vous avez un centre de référence sur le botulisme en France qui est l'Institut Pasteur, qui indique qu'il y a encore des cas de botulisme, et notamment depuis ces 4 dernières années. Donc on a vraiment un
sur
sujet de
sécurité sanitaire. Sur quel type de produit, monsieur Bazergues?
Concernant le sujet des rillettes, les rillettes, ce sont des produits qui, effectivement, du fait de leur cuisson, n'ont pas besoin, notamment dans l'exemple que vous donnez, d'utiliser des nitrites.
Pourquoi en mettez-vous dans certains? Et c'est la même chose. Pourquoi le jambon de Parme n'a pas de nitrite ni de nitrate? Et pourquoi les jambons secs ou crus français en mettent? Pourquoi est-ce que j'ai devant les yeux, dans un même magasin...
S'il vous plaît, David Bazergues, laissez continuer.
Pourquoi ai-je devant les yeux, acheté dans un même magasin, du rôti de porc cuit avec du nitrite, il est tout rose, et du rôti de porc cuit sans nitrite, sans nitrate, simplement porc, poivre, sel, il est tout gris. Pourquoi? Alors effectivement, vous agitez toujours cet épouvantail botulisme.
Alors, concernant le sujet des rillettes que vous indiquez, déjà, on a certainement à considérer les process de fabrication pour obtenir ces rillettes. Je ne connais pas le process qui est utilisé sur la marque distributeur dont vous parlez. Il faut savoir également qu'il y a une forte attente des consommateurs vers plus de naturalité, et les entreprises sont à pied d'œuvre justement pour travailler sur le sujet des nitrites. Sachez que nous
depuis
avons déjà diminué de 20% la quantité de nitrites dans le dernier code des usages, et si vous faites vos courses comme vous l'indiquez, vous verrez que nos entreprises sont transparentes, que vous avez la liste des ingrédients dessus, et qui vous a permis d'ailleurs de faire ces commentaires-là.
Mais c'est pas la question, je ne remets pas en cause le fait qu'ils sont indiqués. Ce que je remets en cause, c'est qu'on trouve encore aujourd'hui des nitrites dans des knacks. Je trouve ça étonnant qu'on trouve, qu'on tolère les nitrites, qui, vous le savez bien, donnent lieu à trois types d'agents cancérogènes, les nitrosamines, les nitrosamides, avec un D, et le fer nitrosylé. Trois types d'agents cancérogènes, alors qu'il y a des alternatives, alors qu'il y a toutes sortes de technologies. J'en ai apporté un sac plein à la radio de charcuterie sans nitrate, sans nitrite, acheté dans les mêmes magasins. Pourquoi tolérez-vous dans certains les nitrites, les nitrates? Pourquoi est-ce que une organisation aussi responsable que la vôtre, qui a un tel pouvoir sur votre industrie, ne peut pas dire, attendez, les oui, fabricants, il faut faire comme les fabricants de Parme, on interdit le nitrate, le nitrite. On ne peut plus tolérer ces agents cancérogènes.
David Bazergue.
Alors, les nitrosamines, ce qu'il faut savoir sur le sujet, déjà, si vous faites des analyses sur les produits de charcuterie, vous le savez, Monsieur Coudray, puisque vous en avez fait dans le cadre du cache investigation, on ne retrouve pas des nitrosamines dans les produits de charcuterie français, puisque nous avons mis en place des mesures préventives pour les empêcher, notamment l'ajout de vitamine C, ainsi que l'utilisation de certaines bonnes pratiques, contrairement à d'autres pays, pour justement les prévenir. Et moi, je suis particulièrement intéressé quand je vois, notamment aujourd'hui, des prises de position de médecins, notamment le Parisien, qui reprend les propos du docteur Jean-Michel Cohen.
Oui, qui a été radié, Jean-Michel Cohen, qui a été radié de l'Ordre des médecins. D'ailleurs, je cite, hein, parce que j'ai sous les yeux le Parisien qui conseille le guide d'achat pour bien manger. Alors, je lis le Parisien, puisque vous citez le Parisien, qui nous dit, à propos de ce livre, « Pas de prise de tête, misons sur un must pour le palais des plus jeunes, l'inusable jambon puré. Il se composera du jambon cuit supérieur sans couenne de Fleury Michon ou de son équivalent chez Herta, qui font partie donc de la sélection de Jean-Michel Cohen dans son ouvrage, grâce à une viande française sans OGM pour le premier et un taux de sucre inférieur de 1 à 1% pour le second. Et on ne parle absolument pas, Jean-Michel Cohen ne parle pas du risque des sels nitrités.
Guillaume Coudray. Il est médecin.
Il a été radié de l'Ordre des médecins, monsieur.
Et je ne connais pas ce monsieur.
Il a été radié pour un an pour de l'Ordre des médecins. Guillaume Coudray.
Non, mais il faut être sérieux. On ne peut pas parler aujourd'hui des charcuteries sans parler du risque de cancer colorectal. Il faut quand même rappeler qu'il y a une seule famille d'aliments qui a été classée par le CIRC dans la catégorie 1, d'accord ? Une seule famille. Il y a un seul, avant que les charcuteries rentrent dans cette catégorie 1, il y avait un seul produit qui s'appelle le poisson salé à la mode cantonaise, qui est responsable du cancer du nasopharynx. On n'en mange quasiment pas en Europe, c'est un cancer des voies respiratoires. Les charcuteries, aujourd'hui, malheureusement, sont le seul produit qui est cancérogène de classe 1.
David Bazergue, une dernière question. Hier, je suis allé dans un supermarché à Paris. Sur la quarantaine de références en jambon cuit, j'ai trouvé trois références qui indiquaient sans sel nitrité ou encore conservation sans nitrite. Alors pourquoi Herta ou Fleury Michon ne proposent-ils pas, parce qu'il s'agit de leur gamme en l'occurrence, ne proposent-ils pas tout leur jambon sans sel nitrité, alors qu'ils proposent deux jambons sans ces additifs qui posent problème?
Alors, les nitrites ne posent pas de problème dans les conditions de consommation régulière et dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
C'est pas ce que dit le CIRC.
Les consommateurs sur le sujet, vers plus de naturalité, vers des listes d'ingrédients courtes. Donc les industriels proposent effectivement des gammes qui vont dans ce sens pour justement être en adéquation avec les attentes sociétales. Et c'est le sujet effectivement sur la liste des ingrédients, mais également sur bien d'autres dimensions telles que l'environnement, le bien-être animal. Nous sommes à l'écoute des préoccupations sur le sujet de l'OMS. Il y a des préoccupations, nous travaillons dessus, nous travaillons avec des experts scientifiques, nous travaillons avec des agences françaises.
Merci.
Et sachez que
merci,
nous
David
prenons
Bazergue.
En compte tous les sujets.
Merci beaucoup David Bazergue. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la FICT, Fédération des industriels de la charcuterie, traiteurs et transformateurs de viande. On s'intéresse aujourd'hui aux vices de la charcuterie industrielle en compagnie du journaliste d'investigation Guillaume Coudray.
You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in. Before we had to run, I was always 10 feet behind you. From the start, didn't know you were gone. Till we were in the car, oh, the glory of it all was lost on me. Till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you. Light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. Could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me. Till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Away from you.
The National Light Years.
Allez, tapez dans le pâté, ça ira mieux.
Pardon ?
Grand bien vous fasse.
Mais ça fait un peu Jacques a dit, pas de charcuterie. Hein.
Ça va pas être gras, ça ?
Le gras, c'est la vie.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse aux vices de la charcuterie industrielle. Alors Guillaume Coudray, je rappelle que vous publiez un ouvrage intitulé Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison. Alors on a entendu tout à l'heure un représentant des industriels qui justifiait l'utilisation de sel nitrité par le fait que c'était bon pour la santé des consommateurs. Le nitrite de sodium et le nitrate de potassium permettent de protéger contre une bactérie mortelle susceptible de se développer dans la viande et qui peut donner une maladie, le botulisme.
Alors, c'est effectivement la justification officielle, on va dire le paravent, qui est présenté depuis des décennies, qui a été inventé par les industriels américains et qui est repris par beaucoup d'industries. En fait, ce problème de botulisme, alors effectivement, c'est une bactérie qui apparaît quand les charcuteries sont fabriquées de façon sauvage, par des 6 mois, et je me lave pas les mains et que je commence à faire un jambon, effectivement, il vaut mieux mettre un bactéricide dedans. Si demain, j'ouvre une charcuterie au fond du maquis, sans accès à l'eau et avec un cochon dont l'hygiène, l'abattage, les conditions est vraiment très approximatif, bah il vaut mieux mettre un bactéricide. Alors après, il y a des bactéricides qui sont moins dangereux que les agents cancérogènes, hein. Mais il est faux, encore une fois, depuis 1993, il y a 150 salaisonniers de Parme. Parme, là, une grande capitale gastronomique. Ils produisent chaque année 9 millions de jambons. de jambon sec. Il n'y a pas un seul jambon sec de Parme ou cru de Parme qui a le droit d'avoir soit du nitrate, soit du nitrite. C'est du cochon, du sel. Il y a même moins de sel que dans la plupart des cochons. Il n'y a pas eu un seul cas de botulisme. Pas un seul. Donc, faut arrêter d'agiter cet épouvantail. Le botulisme, c'est un risque aussi si quelqu'un fabrique du saumon de façon sauvage, sans savoir les bonnes pratiques. Même si on fabrique des pommes de terre sous vide, de façon pratique, il faudrait, alors, ça veut dire, il faudrait tout nitriter, sous prétexte qu'il y a un risque dans certains aliments, effectivement, quand on le fabrique mal, qu'il y a un risque de botulisme. Mais non, il faut simplement que les charcutiers appliquent les bonnes méthodes. Ils savent le faire. Quand ils sont formés, ils savent le faire. Alors, les grands groupes industriels qui font de la charcuterie, je pense, ont les techniques pour faire des bons jambons, comme à Parme.
Bonjour Antoine Lee.
Rebonjour.
Alors, vous avez rencontré un charcutier artisanal qui n'utilise pas d'additifs nitrités dans ses produits. Gilles Véraud, artisan charcutier à Paris depuis 20 ans.
Voilà, dans la famille Véraud, on est charcutier depuis 3 générations. Alors, autant vous dire que Gilles Véraud prend très au sérieux son métier, au point d'avoir été primé à plusieurs reprises, champion de France du fromage de tête ou encore vice-champion du monde du pâté en croûte. Alors, je l'ai rencontré dans son atelier pour savoir comment il travaille. Il était justement en train de préparer un pâté en croûte spécialement créé pour un grand restaurant parisien.
Alors là, on va travailler sur un pâté en croûte à base de filets de canette, à base de foie gras, avec une farce de porc, farce de cochon et de la griotte.
Comment vous faites pour choisir vos produits, notamment la viande ?
Alors ça, c'est une réflexion que j'ai eue il y a 20 ans. Je me suis posé la question à ce moment-là, pourquoi je ne choisirais pas une viande avec un élevage raisonné dans la nourriture, dans les conditions d'élevage et dans les conditions d'abattage. Donc il y a eu ce choix. Et donc la rencontre avec un éleveur dans le Perche, je vois quand je vais chez lui les conditions dans lesquelles ils sont élevés, c'est-à-dire sur litière, c'est sur la paille, la place qu'ils ont, la nourriture qu'on leur donne, tout est important en fait. Je vais passer maintenant à l'étape avec les filets de canette. Donc on aura cette belle couleur entre le côté très coloré de la griotte, très, très vif, et puis la nuance entre le foie gras un peu jaune et la canette un peu rose, donc ça donne un produit qui est quand même très joli à regarder.
Là, vous êtes en train de créer donc un produit particulier, mais vous faites aussi des produits plus classiques.
Tout à fait, toute l'année, nous faisons le fromage de tête, le jambon de Paris, bien sûr, et les pâtés en croûte notamment.
Alors là, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a ni colorant, ni conservateur.
Non, alors, les nitrites, on entend quand même le sel nitrité en tout cas. On en entend parler depuis quand même très longtemps pour avoir une conservation un peu plus longue, pour avoir une couleur beaucoup plus soutenue. On se dit qu'il y a peut-être un risque à consommer beaucoup de charcuterie à cause des nitrites. Donc on est en train de supprimer complètement les nitrites de nos charcuteries.
Ça veut dire que vos produits, ils se gardent moins longtemps ?
Le produit ne va pas conserver sa couleur très longtemps. Oui, le produit ne va pas se garder plus que 48 heures pour certains. Comme le jambon, par exemple. Le jambon, pour moi, c'est maximum 48 heures.
Gilles Véraud, quel est votre point de vue sur la charcuterie industrielle ?
Il m'arrive très souvent de goûter la charcuterie industrielle, notamment le jambon, pour voir un peu le travail que font les industriels, pour comparer le goût, pour comparer les prix.
C'est-à-dire que vous allez acheter de la charcuterie industrielle dans une grande surface ?
Majoritairement, les gens achètent de la charcuterie de grande surface. Donc, moi, ça m'intéresse dans le sens où j'ai envie de savoir un peu ce qu'achètent les gens. Je suis quand même attristé de voir ce que la majorité des gens connaissent du jambon.
Les consommateurs achètent en grande surface parce qu'ils se disent que c'est moins cher que d'acheter chez un artisan.
Sur le jambon bio, le jambon d'exception, soi-disant, était à 45 euros le kilo.
En grande surface, hein ?
En grande surface, oui, tout à fait. Chez nous, artisans, parisiens, 30 euros le kilo. Donc voilà, c'est 50% plus cher, tout simplement. Donc moi, je trouve ça scandaleux, en fait. À la sortie, on a un jambon qui ne peut pas du tout subir la comparaison avec notre jambon fait artisanalement, élevé par un éleveur qui respecte complètement les conditions d'élevage, d'abattage de ses cochons. Là, je me dis, on ne fait pas le même métier, quoi.
Qu'est-ce que vous faites là, Gilles Véraud ?
Mise en cuisson dans le four. Donc, il va cuire assez rapidement. Je pense qu'en 3 quarts d'heure, à peu près, il va être cuit.
Et moi, Antoine Lee, qui pensais que vous alliez ramener de la charcuterie de chez Gilles Véraud,
Mais pour tout vous dire, j'ai tourné ce reportage en début de semaine dernière, et donc ces produits, comme il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de nitrite, et ben ça se conserve pas longtemps. Donc, mais promis, la prochaine fois, je vous en ramène.
Un mot rapide, Guillaume Coudray.
Je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est qu'aujourd'hui le consommateur, il peut vraiment justement voter, on va dire, avec ses propres achats. Il peut acheter des charcuteries sans nitrite, il peut exiger des fabricants qu'on fasse des charcuteries sans nitrite, il peut choisir par exemple plutôt le jambon de Parme plutôt qu'un jambon sec français qui est nitraté, et puis il peut aussi se manifester, on va dire, politiquement ou s'engager.
Il y a une pétition
Il y a une pétition sur change.org, c'est la pétition qui a été lancée par Pascal Dergan après Cache Investigation. Il y a, je crois, 55 déjà milliers de signataires. Contre les sels nitrités, pour demander à la ministre d'interdire ces produits.
Ministre de la Santé. Bonjour Guillaume Bouissou.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes charcutier artisanal dans l'Aveyron. Alors vous avez travaillé dans la charcuterie industrielle. Votre regard sur la défense et illustration des sels nitrités par David Bazergue tout à l'heure, le délégué général de la Fédération des industriels de la charcuterie, traiteurs et transformateurs de viande. Votre regard sur sa défense. Mais,
bon, moi, disons qu'aujourd'hui, voilà, je suis éleveur de porc dans l'Aveyron. Je transforme environ 700 porcs par an. Ce qui reste moindre, environ 15 cochons par semaine. Je fabrique de la charcuterie moi-même. Je me suis formé il y a 10 ans donc pour fabriquer ma propre charcuterie. Et ce, sur des bases de ce que faisaient mes grands-parents et arrière-grands-parents. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fabrique de la charcuterie avec des sels nitrités. On sait très bien fabriquer de la charcuterie sans sels nitrités et sans se détruire à la santé, quoi, comme on vous l'avait dit.
Et Guillaume Coudray.
Ben oui, moi, quand j'ai écrit ce livre, à un moment, j'avais parlé avec Monsieur Bouissou et beaucoup de ses collègues, et l'exceptionnalité, ce qui est vraiment intéressant chez Monsieur Bouissou, c'est qu'il fait aussi des charcuteries sèches. Donc, c'est pas simplement un problème de sel nitrité, c'est aussi un problème de charcuterie sèche. Ça veut dire que lui, il va faire de la copa, et je trouvais fabuleux la façon dont il parlait du cochon et de la couleur naturelle. Il a pas, lui, parce qu'il utilise du cochon qui est mûr, il a pas besoin de faire de la fausse couleur en mettant du salpêtre.
Guillaume Coudray, qu'est-ce que vous avez envie, pardon, pas Guillaume Coudray, Guillaume Bouissou, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux consommateurs qui nous écoutent ce matin et qui sont inquiets?
J'ai envie de dire qu'en priorité, ce dont on n'a pas trop discuté tout au long de l'émission, c'est de se poser la question de où proviennent les viandes, quoi. En priorité, il faut aussi regarder où c'est qu'on achète son cochon et d'où vient son cochon. Aujourd'hui, on est dans un marché mondial où la viande va et vient d'un côté à l'autre de la planète. Donc regardez où vous achetez vos produits, achetez-les, j'ai envie de dire, en circuit court. C'est là où on maîtrise le mieux le transport des bêtes vers l'abattoir, le retour des bêtes sur les ateliers de transformation avec des délais très courts. Et on peut transformer de bons produits dans des conditions idéales, quoi, voilà.
Merci beaucoup, Guillaume Bouissou. Un mot de conclusion, Guillaume Coudray, rapide.
Bah, pour moi, c'est simple, c'est que les technologies, elles existent. Les charcuteries sans nitrite, sans nitrate, il faut juste les mettre au devant. Les consommateurs ne veulent plus se faire empoisonner par des produits qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas indispensables. Les alternatives, elles existent. Il faut redonner aussi aux produits leur vraie couleur.
Merci beaucoup, Guillaume Coudray. Je recommande vraiment cette formidable enquête, très fouillée, rigoureuse, et qui fait froid dans le dos. Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison. Vous pouvez retrouver toutes les informations et la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Inter.